de Jovan Jovanović Zmaj, Vidoša Vavrankovic, 1860. L'histoire que je vais raconter s'est passée il y a bien longtemps. Il s'est écoulé peut-être plus de 100 ans depuis. Tous les témoins de ces événements sont morts. Seule l'ombre noire de la trahison plane toujours. De peur qu'à son tour elle ne s'évanouisse, je vais ici raconter l'histoire telle que je l'ai ouïe de nos dernières aïeules. Si vous visitez quelque jour notre admirable Strem, nos montagnes de Fruška, n'y cherchez point des Alpes serbes, n'y cherchez point la sauvage beauté des pointes de rochers invisibles à l'œil, le fond des précipices où ne descend pas le soleil. N'y cherchez pas les Vésuves et les Etna qui vomissent le feu, les laves et les rocs. C'est au Monténégro que cela se trouve. Ici, la beauté est autre. Dieu a créé, en se proposant, en reposant, semble-t-il, les montagnes de Fruška. La chaîne de ces montagnes apparaît comme une humble femme, une bonne mère de famille dont les petites nourricières abreuvent et alimentent des enfants reconnaissants qui, en retour, couvrent leur mère de joyaux. Ces 14 couvents ne sont-ils point 14 bijoux précieux? Dans cet heureux Strem, au bord du Danube, dans les superbes montagnes de Fruška, se trouve le village H. Arrêtons-nous là un instant. Que celui qui veut me suivre entre doucement sur la pointe des pieds dans la chambre dont j'ouvre la porte. Doucement, doucement, la malade dort. Elle vient à l'instant de fermer les yeux. Un vieillard aveugle, tremblant, prie Dieu près de sa fille. Doucement, ne troublons point cette prière. Un bel adolescent, les mains jointes, se tient près du lit. Il contemple la malade avec un regard plein d'extase. Le vieil aveugle est Urok Brankovic, le prêtre du village R. Il y a 50 ans que le pays le vénère et l'aime comme un père. Pas un homme dans la contrée qui n'est baptisé, pas un mort qui n'est enseveli, le vieux prêtre Urok. Il y a 1 an, il était heureux. Il y a 1 an, il regardait le monde avec des yeux grands ouverts et ses yeux avaient de quoi voir. 5 vices florissants, 5 faucons fiers qui l'entouraient et l'aimaient, et sa fille Vidoslava qui grandissait entre eux comme une fleur unique, incomparable au monde. Il a vu ce bonheur et il n'osait y croire. Son imagination souvent le portait sur un champ de bataille, sur un vaste cimetière où gisent ensevelis des milliers de héros serbes, effondrés là avec leur royaume. Il évoquait l'ombre de ses ancêtres du malheureux Vuka et soupirait profondément. Il pensait, puis-je être heureux? Est-ce qu'une bénédiction peut reposer sur moi? Ah, je vis dans un rêve. Malheur à mon réveil. Ainsi pensait-il, mais il n'osait pas confier sa peine. Parfois, en célébrant les saints mystères, il tremblait devant l'autel. Sa gorge se serrait, et il se croyait indigne de prier. Il regardait les saintes espèces, et comme un pécheur, on osait les toucher. Et pourquoi tout cela? Il ne savait pas lui-même. Il n'y a pas de péché plus grand, plus mortel que la trahison de sa patrie. Lourde la malédiction qui retombe sur les innocents. Oh, ce fut trop de malheur en une seule année. 5 plaies vives, 5 cercueils noirs. Est-il possible qu'on puisse, après avoir enseveli 5 fils, se relever vivant de leur tombe? Urok Brankovic a perdu tous ses fils, tous ses faucons. Il en a pleuré 4 amèrement. Dans ses larmes s'est exhalée la lumière de ses yeux. Quatre tombes ont mis sur ses yeux quatre voiles noires. Il n'a pu au travers voir la cinquième tombe. Le père aveugle n'a point pleuré le dernier fils, ou prendre les larmes. Une source même aurait tari. Quand le malheur trouve une proie, il s'acharne. Quand on enterra le cinquième fils de Brankovitch, Vidosava prit son père par la main pour sortir du cimetière. Il pleuvait à torrents. Sur le chemin se trouvait un ruisseau gonflé de pluie. Il coulait furieux, entraînant les pierres et arrachant les arbres. Les vagues montaient, l'ouragan redoublait de fureur. Le petit pont jeté sur le ruisseau se couvrait de l'eau montante. Vidosava, voyant les autres passer, voulut suivre, et entraînant son père, elle monta sur le pont. Il n'y a pas de péché plus grand, plus mortel que la trahison de sa patrie. Lourde est la malédiction qui retombe sur les innocents. Le vieil ourogue le savait. « Ma fille, où es-tu? Mon unique appui, où es-tu, ma Vidosava ?» Mais Vidosava était déjà dans les flots. Les montagnes d'eau miroitantes ont englouti Vidosava. La jeune fille a suivi ses frères. Meurs, vieil Uroc. Rassasie-toi, fatal destin. Demi-mort, Uroc tomba. Il ne sut ni comment, ni par quoi il se trouva dans sa demeure, ni combien de temps il resta sans vie sur sa couche. Quand il revint à lui, il ressentit un grand vide dans l'âme, comme s'il n'y avait plus là ni chagrin ni douleur. De temps en temps seulement, on entendait balbutier « Prends-moi, Dieu, prends-moi !» Les vagues ont englouti Vidosava, mais elle n'était pas destinée à goûter si vite le repos. Il est trop doux de mourir dans le malheur. La mort douce alors est bienvenue. C'est la délivrance. Il n'est dur de passer dans les mains de la mort froide que lorsqu'on quitte le bonheur. Vidosava s'affaisse dans les vagues. Elle laisse tomber ses mains et s'abandonne à la mort. Elle perdit connaissance. Le tendre cœur ne battait plus que pesamment, rarement. Quand tout à coup une main forte entoura sa taille, la réveilla et la retourna du côté de la vie. Le jeune Stefan Volovitch du village N se distinguait par ses mérites des autres jeunes gens. Plein de vie, plein de bonté, de fierté héroïque, brave comme un vrai Serbe. Le jeune Stefan Volovitch était là, tout près, quand Vidosava est tombé dans l'eau. Il s'est jeté dans le flot comme en dansant, quoiqu'il courut le risque de sa vie. Les assistants ont pu réciter bien des fois leur pater, ne sachant s'il priait pour un vivant ou pour un mort, pendant que durait la lutte des flots. Mais enfin le jeune homme apparut avec la jeune fille sur la rive. Vidosava revint à elle au contact frais de l'air. Elle regarda son sauveur d'un clair et paradisiaque regard d'or. Il y avait pourtant dans ses yeux plus de tristesse que de joie. Stéphane ne pouvait attendre de récompense plus grande que ce regard. Mais la poitrine de Vidosava n'a jamais eu serment plus douloureux. Tous deux soupirèrent. La jeune fille à nouveau faiblit et retomba inanimée dans les bras de Stéphane. C'est dans cet état qu'on l'a transporté dans sa demeure pour la veiller comme la prunelle de l'œil, lui donner les secours de la terre et du ciel, et empêcher que la fleur incomparable se flétrisse et meure. C'est la chambre où nous sommes entrés au commencement de ce récit. Les fenêtres sont couvertes de rideaux verts qui tamisent les rayons du soleil. Un silence recueilli règne dans la chambre, où l'on entend à peine la respiration faible de Vidosava. Sur la table, des fleurs exhalent leur parfum comme un soupir dont la muette prière monte vers Dieu. L'odeur des remèdes se mêle à l'encens des fleurs. La prière du Père est angoissée et ardente. Celle de Stéphane est pleine d'espérance. De ses prières, laquelle fléchira Dieu? De ses remèdes, lequel sauvera Vilosava? Que la malédiction qui retombe sur les innocents soit révoquée et périsse. Stéphane a changé, il est méconnaissable. On lui dit naguère qu'il avait arraché aux eaux son bonheur, tant son cœur éclatait de joie. Mais Stéphane sent que jamais plus il ne sera joyeux. Jamais, tant que Vidosava n'ouvrira pas les yeux, ne le regardera pas de ce regard pour lequel il irait à la mort. Les jours se sont passés. Vidosava languissait toujours. Une chaleur lourde était dans son sang. Devant ses yeux clos, passaient la vie et la mort, et cela faisait peine de l'entendre gémir. Chaque matin, à l'aurore, Stéphane quittait son village et venait à R. Chemin faisant, il cueillait pour Vidosava des fleurs blanches, bleues, lilas, qui allaient si bien au doux visage coloré par la fièvre. Aujourd'hui, Stéphane est venu de bonne heure, mais il a trouvé le vieux père déjà debout, anxieux, près du lit de sa fille. « Vénérable père, dit Stéphane en embrassant la main du vieux, je n'ai pu m'endormir cette nuit, je n'ai plus de repos. Je me sens plus malade que notre malade. Avant l'aurore, j'étais ici. Oh, tu ne peux pas me guérir, mais tu me soulageras si tu prêtes l'oreille aux confidences de mon cœur. Parle, mon fils, dit le vieillard. Quel autre que toi pourrais-je écouter? Tu tiens la place de mes 5 fils et tu as sauvé mon dernier enfant. Cher père, je ne suis pas un faible enfant qui pleure et qui se lamente. Elles seraient grandes les douleurs capables de me ployer. Je mourrais plutôt que de sangloter et de m'abattre. Je suis élevé à la serbe et ne permet pas que mon cœur me trouble. Et pourtant, depuis que je me suis jeté à la mort et suis ressuscité avec Vidosava au bord de la tombe, je ne me connais plus. Je ne suis plus moi-même. Je ne gouverne plus mon cœur. Il a grandi, il s'est émancipé et transfiguré. Quant à moi, j'ai faibli. Je me sens diminué, je me sens effacé comme une ombre, faite uniquement pour suivre mon cœur. Je ne commande plus à ma pensée, à mon désir. J'appartiens entier à Vidosava. Tout en moi, la serre se prosterne devant elle. Quand pour la première fois mon regard a plongé dans ses yeux, j'ai pénétré son cœur, j'ai compris son âme. Et depuis je sens que sans ce cœur, sans cette âme, sans ses yeux, sans Vidosava, je ne puis plus vivre. Bien maintenant, voilà, je suis soulagé, car tu sais tout. Elle guérira Vidosava, puisque Dieu vit et qu'il est bon. Et alors, dis, père, dis que Vidosava sera mienne pour la vie. Pendant que Stéphane parlait, Vidosava soupirait de temps à autre, et le vieux prêtre secouait la tête. Un nuage couvrit son visage. Il devint pensif et 2 larmes claires perlèrent à ses yeux obscurs. Stéphane remarqua ces signes de tristesse. Il n'augurait rien de bon. Angoissé et le cœur mourant, il attendait les paroles du père. Celui-ci gardait le silence, une sueur froide baignait son front. Il dit enfin, « Mon fils, où es-tu? Assieds-toi près de moi, que je puisse t'enlacer, si je ne puis te voir. C'est bien, oui, comme cela. Ah, tu m'es cher. C'est parce que je t'aime que je te dois la vérité. Quel bonheur si la bénédiction de Dieu descendait sur vous, si Dieu vous avait fait l'un pour l'autre. Mais qui le désire si ce n'est moi? Mais écoute, mon fils, puis réfléchis. et tu agiras ensuite comme il te sera inspiré. Je m'appelle Uroš Branković. Je suis serbe d'âme et de corps, mais le malheur de ma naissance pèse sur moi. Je m'étais dit que le péché de Vuka n'est pas mon péché, et j'ai fait l'impossible pour laver de mon nom la tache du déshonneur. J'ai appris à mes fils à ne respirer que pour la patrie. Je leur ai dit que s'ils sentaient une goutte du sang de Vuka, ils misent un serpent à leur cœur pour en sucer ce poison. Et je leur disais, toute la mission d'un Serbe est d'aimer la patrie. Je leur disais de fouler aux pieds leur vie, leur salut, plutôt que de la trahir. Mes fils m'écoutaient, et s'ils eussent vécu, ils n'auraient point souillé mon nom. Le jour de la Saint-Vidor, le 15 juillet, naquit ma fille Vidosava pendant que ma mère et sa mère se mouraient. Nous avons emmailloté de l'ange noir cet enfant dont la vie nous coûtait cette mort. Vidosava, né, a toujours été extraordinaire comme sa naissance. À 4 ans, elle était plus intelligente que l'enfant de 8 ans. Elle ne pleura jamais, si ce n'est une seule fois, à la vue du portrait de Vuka Branković. Elle pleura comme si on l'eût mis sur des charbons ardents. Je ne sais où elle a pris à 13 ans la chanson du traître de Kosovo. Elle chantait ce chant d'une voix triste, et son petit visage pâlissait et le sourire ne pouvait monter à ses lèvres. Ses beaux yeux devenaient fixes et se remplissaient de larmes comme s'il voyait le passé ou l'avenir. Et quand on lui demandait « Qu'as-tu, Vidosava ?» « Dis-le-nous, pour l'amour de Dieu !» Elle répondait solennellement ces seuls mots, « La malédiction !» Mais il y a un an de cela, 1000 ans, l'aîné de mes fils, elle a demandé en mariage une jeune fille et rentra rayonnant de bonheur. Vidosava sortit à sa rencontre. Hey, « Eh, mon malheureux frère, tu te crois heureux ?» Est-ce qu'un Branković peut être heureux? Oh, Mila, il n'y a pas de péché plus grand, plus mortel, que la trahison de sa patrie. Oh, Mila, lourde la malédiction qui tombe sur les innocents. Elle dit cela et l'embrassa comme on embrasse un mort. Et le même jour, Mila tomba malade. Le lendemain, il était mort. Et peu après, une nuit, elle se réveilla en criant « Vlaïko, mon frère Vlaïko, où est mon Vlaïko ?» Ah, lourde de la malédiction qui retombe sur les innocents. Au même instant, le cheval de Vlaïko courait, mais sans Vlaïko. Vlaïko, pendant la chasse, tombait de son cheval et il se tuait. Et c'est de la même manière qu'elle a prédit la mort de Mirka et de Radmila. Et depuis ce temps, j'ai reconnu en elle quelque chose de surnaturel. Je croyais tout ce qu'elle me disait, fût-ce la chose la plus horrible. Parfois, je disais, « Tais-toi, ne prédis rien, pour l'amour de Dieu. Je t'aime comme la mémoire de mes 4 fils. Je t'aime plus que ma vie, plus que mon âme, et je tremble en entendant les paroles de ta bouche. » Et elle me dit, « Oh, tu m'aimes, malheur à celui qui m'aime ou qui m'aimera. Mon destin est fatal. Terrible est le péché qui retombe sur les innocents. » Et me regardant fixement dans les yeux, elle ajouta, « Mais pourquoi donc vois-je toujours les jeunes Georges et Jean Branković avec des trous vides à la place des yeux ? Et après ça, je vois un autre Georges et aussi Grégoire Branković. Ils sont aveugles, ils ont les paupières sanglantes. Oh, mon père, tu es aussi, toi, Branković. » En écoutant ces mots, je frémis et bientôt la nuit éternelle descendit sur mes yeux. Et une fois, au matin, mon dernier fils Damien vint à moi. Il embrassa ma main. « Cher père, me dit-il, mes jours sont aussi comptés. Cette nuit, j'ai entendu que Vinoçava pleurait, et plusieurs fois, elle a dit mon nom. Père, absous-moi. Mais qui peut absoudre si Dieu n'absout pas? Damien, mon fils, il n'y a plus de bonheur. Il n'y a plus de bonheur. Et ils sont maintenant tous cinq dans la terre. Ils ont emporté ma maison, mon foyer. Et le vieillard se tut. Stéphane restait atterré et plongé dans une profonde rêverie. Bientôt, se raidissant, il revint à lui-même. Il sentit seulement son grand amour pour Vinoçava. Il sentit que tout son bonheur et tout son malheur étaient liés à cette jeune fille et que rien au monde ne pourrait le séparer d'elle. Vinoçava, dans sa couche, souriait tristement. « Pourquoi m'embrasses-tu, vieux Brankovitch? Voilà 22 ans que j'habite avec toi les prisons des Chébas, et tu ne m'as jamais embrassé. Est-ce que tu n'avais pas le temps? Nous avons compté ensemble les malheurs des Brankovitch. Avons-nous bien tout compté? Pas encore? Ah, laissons donc cela, bientôt ce sera la fin de tout. Viens, viens, père, près de moi. » « Embrasse-moi encore. Est-ce doux de m'embrasser? Oh, c'est la guérison. Viens, viens donc. » Stéphane s'inclinait pour baiser la main de Vinoçava. La jeune fille ouvrit les yeux et cria, menaçante, « Mais tu n'es pas, Brankovitch. Ne me tire pas de l'eau. Laisse-moi mourir. Laisse-moi pour ton bonheur à toi. » Et elle ferma les yeux, gémit. Entre les gémissements, on pouvait distinguer « Oh, donc sa patrie !» Lourde est la malédiction qui retombe sur les innocents. Des fleurs à demi fanées, des feuilles jaunissantes sur le sol, telle était la couche où l'été se mourait. Le soleil se glaçait, s'enveloppant d'un capuchon de brume. Quelques oiseaux chantaient encore, mais ce n'étaient que les échos derniers du joyeux babil de mai. Chaque bruit, chaque son renvoyait un adieu. Dans chaque adieu, on entendait un gémissement. Le vent froid chassait au ciel les nuages bistrés. C'était la couche où sommeillait encore la fée mélancolique de l'automne. La vendange est terminée dans les montagnes de Frouchka. Les joyeuses chansons et les chalumeaux sonores se sont tus. Les chalumeaux se sont rangés derrière les poêles. Seul le vent disperse des bruits, celui des feuilles jaunissantes et les craquements sourds des branches mortes. Le ruisseau lui aussi murmure. Il chante toujours de sa voix monotone. C'était plaisir de l'ouïr accompagné du chant du rossignol, parfumé de l'arôme des violettes assises dans l'herbe claire. Et combien c'est triste de l'entendre aujourd'hui, maintenant qu'il chante seul, sans doute parce qu'il ne peut se taire et ne pas chanter, ou plutôt ne pas pleurer les amis perdus. Un immense jardin grandissait autour de la demeure du vieil ouroc Brankovitch. C'était plaisir autrefois de s'y promener. Chaque brindille à chaque arbre portait la trace d'une main soucieuse. Mais aujourd'hui, les sentiers sont envahis par l'herbe, les parterres manquent de sarclage, l'herbe folle a poussé partout et va détruire ce qui jadis fut édifié avec tant de soin. La belle Vinoçava, vêtue de noir, se promène. Son joli visage, fatigué de souffrir, est si pâle qu'on croirait le voir éclairé par les rayons de la lune pâle. Le jour devient plus triste, plus sombre, et cependant Vinoçava est toujours plus joyeuse. Elle pleure toujours, ses frères, mais la certitude que cela devait arriver adoucit l'amertume des larmes et raffermit ce cœur tendre. L'esprit de prophétie qui torturait l'enfant semble évanoui. Vidosava s'éveille à la vie. Elle devient, comme toutes les jeunes filles, joyeuse et vivante. Une jeune fille peut-elle vivre sans amour? Une violette doit parfumer, le cœur doit soupirer. Mais la violette ne se doute pas qu'elle parfume, que son haleine est délicieuse. Pourquoi donc soupire Vidosava? Elle soupire avec béatitude, sans savoir pourquoi. À ce moment arrive Stéphane. Il vient presque chaque jour dans la maison d'Ourok. Il erre avec Vidosava dans les allées du jardin, lui parle de tout ce qui est beau, regarde avec elle les nuages dorés du soleil, et dit à la jeune fille « Ma sœur ». Vidosava ne pouvait croire qu'elle pût aimer, oser aimer Stéphane. L'abbé Chantevoix lui murmurait de temps en temps « Éloigne ce jeune homme, malheur à lui si la malédiction tombe sur sa tête ». Mais à nouveau un sentiment très doux remplissait son cœur. Si quelqu'un eût écouté, il eût entendu cette complainte, chantée de sa voix triste et douce. Est-ce le chagrin ou la mélancolie du cœur? Mieux vaut le chagrin du cœur. Les voisins compatissent au chagrin. Pour la mélancolie, personne ne s'en doute, si ce n'est le pauvre cœur. Chaque jour était plus doux, car chaque jour le cœur était plus aimant. L'amour grandissait et avec lui le bonheur. Heureux est le vieil Ourok. Aveugle, il voit ce que jamais ses yeux n'avaient vu. Il voit sa fille heureuse pour la première fois. Comme cela sent bon ici, de quelle fleur est ce parfum? Demanda un jour Ourok pendant que Stéphane et Vidosava le promenaient dans le jardin en le conduisant par la main. « C'est un plant de romarin, » répondit Vidosava. « Asseyons-nous ici, mes enfants, respirons ce parfum. N'est-ce pas, Stéphane, que cette odeur est délicieuse? Qu'en dis-tu, Vidosava? » Le romarin est d'un bon présage, il fait réfléchir, il parle de joie terrestre, d'amour, de fidélité. Et tous les trois se turent et restèrent attendris, plongés dans leur rêverie. Il n'a fallu qu'une parole et trois âmes ont refleuri. Mais le vieux ne sait comment s'y prendre pour commencer, et les paroles s'arrêtent dans la gorge de Stéphane. Vidosava était auprès du vieillard et voyait la lutte des pensées et des désirs reflétés sur le visage du père et sur celui de l'adolescent. Elle-même tremblait comme un roseau, redoutant la parole attendue. D'un geste machinal, le vieux prit la main de Stéphane et sentit un anneau sur cette main. « Quel est cet anneau, Stéphane ?»« C'est ma mère qui, en mourant, me l'a donné. Elle m'a commandé de le donner en présent à ma fiancée, mais je jure... » À ces mots, le visage de Stéphane s'empourpra et la pâle Vidosava pâlit encore, telle une rose blanche frémissante. « Mais je jure que je le porterai jusqu'à la tombe, si Vidosava ne le prend pas. Ô bonheur, tu es inexprimable. Ô amour, tu donnes sans mesure. En une heure, tu compenses tous les malheurs d'une vie. » Que le romarin parfumait délicieusement. Le soleil se couchait, se reflétant dans les douces larmes de l'aveugle Ourok et dans l'anneau passé à la main de Vidosava. Quand les trois heureux mortels se séparèrent, chacun comptait à part lui le nombre de semaines, de jours, qui restaient encore jusqu'à la Saint-Georges, la date solennelle. Comment Stéphane et Vidosava passèrent-ils le temps qui les séparait du grand jour? L'impitoyable hiver était venu. Le grésil tombait, le vent sifflait, les ouragans mugissaient. Mais pour les amoureux, il n'existait ni hiver ni ouragan. Il n'avait pas froid, il n'était pas triste. Les flocons de neige leur semblaient roses, comme tombés d'un ciel semé de pétales de roses. La gelée ne peut refroidir l'amour brûlant. Le vent lui apporte des parfums que nul ne perçoit, le parfum du romarin, de la fleur favorite. Et les longues soirées d'hiver apportent la joie douce, le bonheur parfait. Quand Boyana, la vieille bonne de Vidosava, s'assied près du poêle et commence à raconter les vieilles légendes, un frisson vous parcourt le corps. Les cheveux se dressent, le cœur se gonfle et les larmes coulent. Et lorsqu'elle s'arrête un instant et qu'on n'entend plus que le bourdonnement de son rouet, on dirait un gousselard qui interrompt son chant à l'endroit le plus intéressant et laisse sa gousselin gémir ce qu'on ne peut chanter, ce qui ne peut être que senti. Un coup de fusil retentit au dehors, un cheval ennemi et un chien aboie. C'est Stéphane qui revient de la chasse. Il apparaît soudain comme le héros des vieilles légendes. Que Dieu t'assiste, ma bien-aimée! Et la flamme de la chandelle vacille sur la table, et le vieil ourok essuie ses larmes. Mais qu'éprouve Vidosava, la belle fiancée? Mes lectrices le savent mieux que je ne saurais le dire. Et lorsque Stéphane repartait, il disait confus à Vidosava, qui l'accompagnait, combien il restait de jours jusqu'à la Saint-Georges. Ce nombre diminuait. L'hiver avait passé comme un rêve. Les arbres et les fleurs déploient leur magnificence. Le chant du rossignol devient de plus en plus doux. Mais pour Vidosava, il n'y a pas de bonheur plus grand que la lettre de Stéphane qui vient d'arriver. Mon trésor, tu sais combien je t'aime, mais il m'est doux de te le redire. Tu es ma lumière, ma vie, tu es tout. Après-demain, c'est le jour où ton amour sera consacré sur l'autel où tu me le jureras devant Dieu et le monde. À l'aube arriveront mes garçons d'honneur. Tout sera joie. Toi-même, sois heureuse, ô ma fiancée, ton Stéphane. Connaissez-vous cette belle fleur qui incline ses légers pétales sur une mince tige verte? La corolle épanouie exhale un parfum délicieux qui coule comme une onde sur laquelle voguent en chantant des sirènes invisibles. Où es-tu semée, petite fleur? Où es-tu cueillie? La Saint-Georges est belle, c'est la fête bénie. Cette fleur, c'est la violette. Boyana a piqué un bouquet de violettes dans les nattes de Vidosava. Comme cette fleur sied bien à ses blonds cheveux blours. Et la vieille bonne lui dit, « Tu es belle ainsi, ma colombe. À présent, tu es parée comme cette jeune fille, cette fleurette dont je t'ai raconté l'histoire et pour laquelle les sept rois se sont battus. Mais pourquoi es-tu triste quand tu devrais être si heureuse? Chère Boyana, je vais te dire tout. J'ai fait un mauvais rêve. J'étais paré comme à présent et je me promenais dans la chambre. Et tout à coup, une voix sourde, à peine distincte, m'ordonna de m'arrêter. Je levai les yeux et je me vis en face du portrait de notre malheureux ancêtre. Je tressaillis et lui leva la main et soudain il sortit du cadre. Et la place vide dans le cadre devint rouge comme du sang. Il s'approcha de moi et me dit, « Ma fille, tu es fiancée, viens que je te bénisse. » Et me prenant par l'anneau, il l'ôta de ma main. « J'ôte, dit-il, ce diamant de ton alliance, car il ressemble à une larme pétrifiée. Voici un rubis. » C'est une goutte de sang serbe du champ de Kosovo. Je vais le faire enchâsser. L'anneau t'ira mieux. C'est là ma bénédiction. puis il rentra dans son cadre, qui redevint un vieux portrait mort comme avant. Ah, ma chère Moyana, je tremble au seul souvenir de cette nuit, et je n'ose pas en dire un mot à mon père. Et en effet, Vidosava était tremblante, et devant son âme apparaissaient en lettres noires les paroles tragiques. Il n'y a pas de péché plus grand, plus mortel que la trahison de sa patrie. Lourde est la malédiction qui retombe sur les innocents. La tendre branche s'est détachée de l'arbre familial. Les fougueux chevaux sont prêts, les chevaux blancs, bêlent, alezans, s'agitent et piaffent. De blancs panaches flottent sur leur tête. En route, Dieu avec nous. Mais de même que la jeunesse ne peut se détacher du bonheur, de même Vidosava ne peut quitter son père. Que Dieu nous préserve de pleurer certaines larmes, qu'il nous préserve des bénédictions ironiques qui maudissent. Mais les garçons d'honneur sont joyeux. Peu leur importe le chagrin de ceux qui se quittent. Ils sont prêts au départ et ils chantent. Ne pleure pas, Vidosava, ne pleure pas, chérie. Il faut se préparer, il est temps de partir. La joie n'est pas dans la maison, Blanche, aux fiancés. Avec nous le bonheur, avec Stéphane le vaillant. Et on fouette les chevaux blancs que montaient Vidosava et son parrain de noces. Les autres invités suivirent. Une heure après, tout redevint silence. Pas un bruit, pas un cri. La poussière soulevée retomba sur la route, car le cortège nuptial serbe ne marche pas, il vole. Et tout se calma autour du vieil Ourok. Le chemin de la noce longeait le bord du Danube. D'un côté étaient de hautes montagnes et des vignes. De l'autre, des rochers dénudés, baignés par les eaux froides du Danube. Vidosava est si pâle, si triste, qu'elle voit, semble-t-il, son rêve en réalité. Le soleil était près du couchant. Ses rayons jouaient sur les étendards, doraient les fusils et les sabres, et lorsqu'ils allumèrent la pierre précieuse de l'anneau de Vidosava, ils miroitèrent de feux multicolores, tantôt bleu pur, comme ce ciel que les anges seuls contemplent, tantôt violet comme une violette sans rivale, tantôt jaune comme une orange que rêverait la persane fantasque dans les bras de son seigneur. Enfin la pierre devint pourpre comme le sang serbe versé au champ de Kosovo. Vidosava jeta un regard sur l'anneau et eut le cri de la biche blessée. Le sang! L'affreux sang! Et elle tomba inanimée dans les bras du vieux parrain. Celui-ci se pencha rapidement en voulant retenir les chevaux. Mais qui pourrait retenir un coursier parti au galop? Effrayés, les chevaux ne coururent plus, ils volèrent. Les sentinelles postées à cet endroit se précipitèrent au-devant en tirant leurs armes, mais il était trop tard. Le Danube souleva un tourbillon de vagues, comme si la foudre y était tombée. Les chevaux furieux emportèrent la fiancée dans la froide tombe. Oh, tout cela se passa en un instant. Les invités s'arrêtèrent pétrifiés. Mais Stéphane s'était déjà jeté à la mort pour retirer des eaux la vie et le bonheur. La destinée en a jugé autrement. Les vagues ont rejeté les deux fiancés à la surface des flots. Ils se sont étreints, mais de l'étreinte des désespérés. On entend encore un murmure horrible. Ce sont les paroles des mourants. Ne t'ai-je pas dit, Stéphane? Ne t'ai-je pas dit que lourde cette malédiction? Pardonne. 20 nageurs se sont jetés à leur secours, Mais que faire contre la malédiction, contre le jugement de Dieu? Stéphane et Vidosava sont au fond du Danube, unis dans leur étreinte suprême. Leurs âmes sont plus heureuses là-bas, où bientôt les a suivis le vieil Ourok. J'avais oublié cette histoire. Il semblait que je ne l'eusse jamais entendue. Mais dernièrement, j'assistais à des funérailles à Novi Sad. Le défunt était comte. Il est mort solitaire, sans parole, sans amis, pauvre, aveugle. Son nom était Brankovitch. Peut-être était-ce le dernier rejeton de cette famille infortunée. Alors je me souvins de tout. Il me semblait entendre la voix de Vidosava, disant tristement à la foule: il n'y a pas de péché plus grand, plus mortel que la trahison de sa patrie. Lourde est la bénédiction qui retombe sur les innocents.